Bien, bonjour. Les ministres de la Défense de l'OTAN vont se réunir aujourd'hui et demain. Et ils se réunissent à un moment charnière. L'Ukraine a lancé une contre-offensive. Nous voyons des combats intenses. Nous en sommes encore au début de cette contre-offensive, mais nous voyons déjà que les Ukrainiens gagnent du terrain et que l'Ukraine peut libérer les territoires occupés. C'est grâce au courage, à la bravoure, aux compétences des soldats ukrainiens, mais ça met également en lumière et ça montre que l'appui que les alliés de l'OTAN fournissent à l'Ukraine depuis de nombreux mois maintenant fait vraiment la différence sur le champ de bataille. Donc, nous allons discuter de la manière dont nous pouvons maintenir et renforcer notre appui à l'Ukraine. Cela se fera au sein de la réunion de la commission OTAN-Ukraine avec le ministre Reznikov. Et avant cette réunion, il y aura une réunion du groupe de contact pour l'Ukraine dirigé par les États-Unis qui se réunit ce matin. La guerre en Ukraine montre à quel point il est important de se tenir aux côtés de l'Ukraine et continuer de lui fournir ce soutien. Nous allons également discuter de la manière dont nous pouvons renforcer la dissuasion et la défense de l'OTAN en marge du sommet de Vilnius en juillet, le mois prochain, où nous aurons de nouveaux plans régionaux, un nouveau modèle de force, une nouvelle structure de force. Et nous allons également discuter de la nécessité de renforcer notre engagement pour investir davantage dans la défense. Nous attendons à ce que les chefs d'État et de gouvernement au sommet se mettent d'accord pour dire que les 2% ne doivent pas être un objectif en soi, mais un minimum pour pouvoir répondre aux défis actuels. Nous allons également voir comment accélérer et intensifier la production. Il est clair maintenant que la guerre en Ukraine est une guerre d'attrition, qui est une bataille de logistique, et donc nous interagissons avec l'industrie de défense. Il y aura un événement informel ici où nous allons rencontrer un petit groupe d'industriels de la défense. Ça se fait dans le cadre de nos interactions avec l'industrie de défense. Lors de cette réunion, nous allons également agréer de nouveaux objectifs capacitaires pour les munitions tactiquement décisives, un objectif qui sera bien plus élevé que l'objectif actuel, puisque nous voyons que le soutien que l'on apporte à l'Ukraine fait baisser nos stocks, et donc il faut renforcer nos objectifs pour reconstituer nos stocks en partie et en partie pour poursuivre le soutien à l'Ukraine. Donc, le nouvel objectif capacitaire pour les munitions tactiquement décisives est un élément important pour assurer que les alliés aient assez de munitions. Nous avons également plusieurs projets en cours d'acquisition conjointe. Nous faisons ceci depuis des décennies dans le cadre de structures bien testées. Beaucoup sont facilités par la NSPA, l'agence d'acquisition de l'OTAN. Par exemple, pour des munitions de 155 mm, nous avons un projet facilité par la NSPA, projet de 1 milliard de dollars. Et nous avons également d'autres projets pour d'autres types de munitions, pour des munitions de défense aérienne notamment. Nous allons également, les ministres devront également se mettre d'accord pour mettre sur pied un nouveau centre pour la protection d'infrastructures sous-marines critiques. Ce centre sera intégré à notre commandement maritime MARCOM au Royaume-Uni. Et demain, nous allons également réunir le groupe de planification nucléaire de l'OTAN pour discuter de la manière de s'assurer que notre dissuasion nucléaire reste sécurisée et efficace dans un monde plus dangereux. Sur ce, je me tiens prêt à répondre à vos questions.
Monsieur le secrétaire général, avec la poursuite de la contre-offensive, que devrait être la priorité pour la réunion du groupe de Rammstein aujourd'hui et quel type d'armement qu'est-ce qu'il faut de manière urgente pour l'Ukraine et y aura-t-il beaucoup de nouveaux engagements? Je m'attends à ce qu'il y ait beaucoup de nouveaux engagements. C'est ce que nous avons vu il y a quelques jours déjà, ces derniers jours, de la part des alliés européens, mais aussi de la part de l'Amérique du Nord et des États-Unis. Je reviens tout juste de Washington et les États-Unis. Le président Biden a annoncé il y a quelques jours seulement un paquet significatif avec davantage de munitions, davantage de systèmes de défense aérienne, de munitions de défense aérienne et d'autres types de soutien militaire. Et nous avons vu que d'autres alliés européens aussi ont annoncé davantage de soutien ces derniers jours. C'est un processus en cours, là où les alliés annoncent un soutien supplémentaire auprès de l'Ukraine. L'Ukraine a besoin de différents types de soutien, mais l'accent principal a été placé et va continuer à être placé sur le maintien dans la durée de ce soutien et que le matériel qui est déjà en Ukraine fonctionne, qu'ils aient les pièces détachées, les munitions, les capacités d'entretien aussi de ce matériel pour qu'ils puissent continuer d'utiliser ces moyens pendant toute l'offensive. Nous allons rencontrer le ministre Reznikov, nous allons avoir un exposé aussi de la part des commandants militaires. Et nous allons avoir cette discussion non seulement dans le contexte du groupe de contact pour l'Ukraine, avec la participation de l'Ukraine, mais nous allons aussi avoir une réunion avec l'Ukraine pour parler de leurs besoins spécifiques. Monsieur le secrétaire général, le ministre de la Défense danois va proposer un plan pour former des pilotes ukrainiens dans le cadre d'un programme pour les F-16. À quel point sommes-nous proches de la livraison de F-16 et autres avions de chasse produits en Europe? Et vous venez de revenir des États-Unis. Est-ce qu'on vous a demandé si vous ne pourriez pas être convaincu de rester un petit peu plus longtemps en tant que secrétaire général si les États membres ne peuvent pas se mettre d'accord sur un successeur? Tout d'abord, je salue la décision prise par de nombreux alliés s'agissant de la formation de pilote de chasse. Je pense que c'est important et cela va nous permettre de prendre des décisions ultérieurement sur la livraison d'avions de chasse de quatrième génération tels que le F-16. Et j'aimerais féliciter le Danemark qui a joué un rôle chef de file pour faciliter cet accord et qui a aussi proposé de former des pilotes ukrainiens. Cela démontre que le Danemark est un pays qui a joué un rôle critique et qui continue de jouer un rôle important lorsqu'il s'agit de fournir un soutien considérable auprès de l'Ukraine. S'agissant du moment où ces décisions seront prises, eh bien, je pense qu'il est trop prématuré pour en parler. Mais avec ces formations qui vont commencer, nous aurons l'option de leur livrer ces aéronefs et les pilotes seront en mesure de les piloter. Je me suis rendue à Washington en début de semaine et l'objectif principal de la visite était d'avoir une discussion sur le sommet de Vilnius. J'ai un dialogue constant avec les chefs d'État et de gouvernement de l'Alliance. Nous avons parlé de la dissuasion de la défense, de l'Ukraine, le besoin de renforcer notre engagement en matière de défense d'investissement et d'autres questions importantes pour l'Alliance. Lorsqu'il s'agit de mon successeur, cela va être décidé par les 31 alliés. Je suis responsable de toutes les décisions que l'Alliance doit prendre, à part une seule, celle sur mon avenir, et c'est aux 31 alliés de prendre une décision.
La Suède négociait hier à Ankara, et en même temps, il y a eu quelques commentaires du président Erdogan, quelques pics. Comment en prendre ces commentaires? Est-ce qu'il est encore possible que la Suède devienne membre à part entière au sommet de Vilnius? Je salue le fait qu'il y ait eu une réunion du mécanisme permanent entre la Finlande, la Suède et la Turquie, auquel l'OTAN participe également, à Ankara cette semaine. Ça fait suite à la réunion que j'ai eue il y a quelques semaines avec le président Erdogan où nous avons eu de bonnes discussions sur la manière d'avancer concernant l'accession de la Suède à l'Alliance. Nous avons créé cette réunion de cette semaine qui a eu lieu dans une atmosphère plaisante avec des discussions constructives qui a pu faire état des progrès et identifier les manières d'avancer pour se mettre d'accord, pour travailler, pour s'assurer que nous puissions avancer dans l'adhésion de la Suède à l'Alliance. La Suède a fait ce qu'on lui a demandé dans le cadre de ses engagements au sommet de Madrid l'année dernière, à savoir lever les restrictions sur les exportations d'armes, renforcer la coopération avec la Turquie dans la lutte contre le terrorisme. La Suède a amendé sa constitution, renforcé ses lois antiterroristes. Et tout ceci nous montre que la Suède a tenu ses engagements. Ça a été mon message également. En même temps, il faut réaliser que la Turquie a des préoccupations sécuritaires légitimes. Aucun allié n'a autant souffert d'attaques. C'est pour cela qu'il faut discuter de la manière dont nous pouvons renforcer la coopération dans la lutte contre le terrorisme. Il est possible que la Suède intègre l'OTAN d'ici le sommet des ministres. Je ne peux pas garantir que ceci se fasse, mais je travaille encore très dur pour que l'adhésion de la Suède se fasse aussi rapidement que possible. Et donc, je salue la réunion que j'ai pu avoir avec le président Erdogan et la réunion du groupe de cette semaine. Ma question porte sur la déclaration de l'OTAN sur des armes nucléaires potentielles en Biélorussie. Mais le président biélorusse en parle comme si c'était un fait. Il a été annoncé que ce type d'armes seront livrées au début juillet, juste avant le sommet de Vilnius. Quelles sont les options de réaction à une telle étape qu'envisage l'OTAN? Peut-être le déploiement de moyens de défense supplémentaires pour protéger les alliés dans les pays voisins, pour les protéger des missiles Iskander potentiels? La rhétorique nucléaire et le message nucléaire de la Russie sont dangereux et irresponsables. La Russie doit savoir qu'une guerre nucléaire ne peut être gagnée et qu'il ne faut pas s'y lancer. Bien sûr, nous suivons de près ce que fait la Russie. Jusque-là, nous n'avons pas vu de changement de posture nucléaire qui nécessiterait un changement dans notre posture, mais nous voyons en même temps quelque chose qui s'insère dans une tendance où la Russie investit énormément dans de nouvelles capacités modernes, déploie davantage des capacités modernes plus proches de la frontière de l'OTAN, par exemple dans le Grand Nord. Ça fait partie d'une tendance à laquelle l'OTAN a déjà répondu en renforçant notre présence dans la partie est de l'Alliance et nous allons continuer de suivre ce qu'il faut faire et la manière dont la Russie modifie sa posture nucléaire.
Vous avez dit précédemment que vous allez quitter ce poste à la fin de ce mandat, mais vous avez dit que ce n'était pas à vous de prendre cette décision. Est-ce que cela veut dire que vous êtes prêt à rester ici pendant 6 à 12 mois encore? J'ai répété ce que j'ai toujours dit, je n'ai aucun autre plan, aucune autre intention, et je n'ai pas l'intention non plus de demander une prolongation. Très brièvement, s'agissant de la contre-offensive, vous avez dit à plusieurs reprises qu'une offensive couronnée de succès va renforcer la position de l'Ukraine à table des négociations. Est-ce que vous pensez qu'il y a un terrain d'entente s'agissant des négociations? Du côté du président Poutine ou de la Russie, nous ne voyons aucun signal nous montrant qu'ils sont en train de se préparer pour des négociations de paix. Mais plus l'Ukraine pourra saisir du territoire avec cette contre-offensive, plus ils seront bien placés à la table des négociations. Et plus la contre-offensive progresse, plus le président Poutine se rendra compte qu'il ne peut pas remporter une victoire sur le champ de bataille et qu'il va falloir négocier. Personne ne sait quand cela se passera, mais tout ce que nous savons, c'est que si nous voulons une paix juste et durable, eh bien, il va falloir apporter un soutien militaire à l'Ukraine, car c'est la seule manière pour l'Ukraine d'envoyer un message clair à Moscou que la Russie ne pourra pas emporter une victoire sur le champ de bataille.
Monsieur le secrétaire général, vous dites que les États membres devraient se mettre d'accord pour dire que les 2% de dépenses devraient être le minimum. Est-ce que vous êtes en train de dire qu'à un certain moment, les États membres vont définir de nouvelles cibles? Dans le cadre des préparatifs du sommet de l'OTAN à Vilnius le mois prochain, ce sera discuté et ça va également être discuté lors de la réunion des ministres de la Défense. Comment renforcer notre engagement pour dépenser plus dans la défense? En 2014, nous avons agréé l'engagement du pays de Galles qui visait à ce que l'on atteigne en 10 ans ces 2% du PIB pour la défense. Maintenant, nous sommes presque à la fin de cette décennie. Le monde est bien plus dangereux avec une guerre de pleine envergure en Europe, mais également tous les autres défis. Je m'attends à ce que lorsque les dirigeants se réuniront le mois prochain, qu'ils se mettent d'accord sur un engagement plus ferme, durable, un engagement qui doit être mis en œuvre dès à présent et non pas sur une décennie, et dans lequel les 2% du PIB pour la défense ne seraient pas un plafond, mais plutôt un plancher, un minimum à atteindre. Mais bien sûr, les consultations sont en cours entre alliés actuellement. Donc, pour l'instant, on ne sait pas exactement quelle forme cet engagement va prendre. Merci beaucoup. C'est tout pour le moment.